Alors bonjour Jérôme Graff, tu es juriste bénévole et membre de la Coalition. Pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter, expliquer ce qu'est la Coalition ?
La Coalition, donc c'est un regroupement d'associations qui vise en fait à alerter sur l'état des libertés associatives en France. Il y a eu un rapport du coup qui est sorti, je crois l'année dernière, donc et qui dénombrait de nombreux cas d'atteinte aux libertés associatives en France, et donc qui vise à faire la promotion aussi de ces libertés associatives et de porter en tout cas la défense de la liberté associative auprès des décideurs.
Ouais, alors je précise que la coalition, ça s'écrit là comme un acronyme pour liberté associative, ce qui permet aussi de peut-être mieux comprendre. Alors on est ensemble pour parler de la loi de séparatisme qui a été renommée loi confortant les principes de la République. On va laisser aujourd'hui de côté les mesures qui concernent les questions de culte et de police du culte pour se concentrer sur les mesures qui portent atteinte aux libertés associatives. La première question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi cette loi ? Est-ce qu'il y a un besoin de légiférer en fait pour encadrer l'action des associations ?
Tout simplement, l'exposé des motifs de la loi explique la volonté du législateur. Ce serait de combattre un entrisme communautaire qui est insidieux sur le territoire français, une dynamique séparatiste. Et donc, c'est pour ça que le projet de loi, en fait, il se donne pour but de renforcer l'arsenal juridique qui serait insuffisant pour faire face, en fait, à l'islamisme radical, mais face aussi à tous les séparatismes. Ce texte, d'une part, il est élaboré dans la précipitation, il est examiné en procédure accélérée, mais ce texte qui prétend, en fait, conforter les principes républicains, en fait, concerne directement, même pratiquement, en fait, tous les droits et libertés publiques qui sont constitutionnellement, conventionnellement garantis. La liberté d'association, la liberté de conscience, de culte, de réunion, d'expression, d'opinion, etc. On a plusieurs instances au niveau national et même international qui ont pu alerter sur les conséquences de ce texte qui pourrait fragiliser durablement en fait les fondements républicains plutôt que de les renforcer. En fait, dans la plupart des cas, les dispositions qui sont prévues dans ce texte, elles restreignent considérablement de nombreuses libertés. C'est pourquoi on a tout un tas de structures, le Haut Conseil à la vie associative, le Défenseur des droits, le Syndicat des avocats de France, etc., qui ont tous alerté en fait, sur ces dangers que présente le texte. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de légiférer pour encadrer l'action associative ? Il a pu être souligné donc, par ces instances que je précitais que les articles qui concernent les associations dans ce projet de loi, ils sont pour la plupart superfétatoires, c'est-à-dire qu'ils s'ajoutent inutilement au cadre existant. Le cadre existant, il permet déjà au pouvoir public, qui dispose des leviers juridiques nécessaires, mais non seulement au contrôle, à la sanction ou encore à la dissolution des associations. On a pu le voir notamment récemment par la dissolution, par exemple, de Génération Identitaire. La question qui demeure, et c'est ce qu'a pu souligner finalement le Haut Conseil à la vie associative, c'est en priorité celle de la connaissance des outils juridiques par les acteurs publics, de leur effectivité dans leur mise en œuvre, ainsi qu'une affectation en fait à cette fin de moyens qui soient matériels et humains qui soient suffisants.
Alors comme tu l'as dit, c'est une loi superfétatoire. Ça veut dire que d'un point de vue juridique, elle n'apporte pas grand-chose aux lois existantes. Est-ce que le lien dans ce cas ou le besoin de légiférer peut venir d'une évolution du monde associatif ?
Alors pour ma part, je pourrais que parler du secteur associatif relatif à l'environnement, puisque je suis bénévole dans ce secteur-là, et puis puisqu'il est visé par le texte. Déjà, le projet de loi, il vise des catégories beaucoup plus larges que cet entrisme communautaire d'inspiration islamiste. Et sous prétexte de séparatisme, il convient de rappeler donc déjà qu'aucun article du projet de loi n'en donne une définition. Le projet s'attaque frontalement à l'ensemble du secteur associatif et par là aux associations aussi de protection de l'environnement en imposant des mesures qui sont parfois hors de proportion, dénuées de lien avec la difficulté qu'il prétend traiter. Maintenant, concernant l'ensemble du secteur associatif, il n'est pas inutile de rappeler cette richesse de ce tissu associatif français qui est considérable. qui joue précisément un rôle très important du point de vue des enjeux et des défis que veut traiter ce projet de loi, à savoir l'intégration républicaine, la création de liens sociaux, par l'engagement, par le partage. Maintenant, concernant les associations de protection de l'environnement, moi, je ne vois pas de lien entre l'objectif de la loi de lutter contre le séparatisme et l'action de ces associations. Je suis bénévole au sein d'une association qui s'appelle France Nature Environnement, qui a été fondée en 68, reconnue d'utilité publique. C'est une association agréée qui s'est donnée pour objet de défendre du coup le bien commun, finalement le plus précieux de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République, la nature et l'environnement. On est porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, et ce sont des centaines de milliers de militants, de bénévoles, de salariés qui chaque jour sur le territoire français font vivre le contrat social, construisent le socle de la démocratie environnementale. Les associations du mouvement, elles sont largement impliquées dans le débat public, elles dialoguent, elles plaident, elles alertent, elles proposent, elles nourrissent, elles participent toute l'année, par exemple, à plus de 200 instances de concertation nationale. En fait, les associations, aujourd'hui, elles sont le fondement de notre démocratie, le fondement de la République et de la démocratie environnementale. Donc, on ne voit pas trop, pour ma part, le lien entre ce qui relèverait du séparatisme au sens politique, qui serait donc une volonté attribuée à un groupe humain de se détacher de l'État pour constituer une entité politique qui soit autonome, et les actions de protection de l'environnement. Donc voilà, pour résumer, je ne vois pas trop de lien entre l'évolution du monde associatif et les objectifs de la loi.
Alors, comme tu viens de très bien le rappeler, les associations permettent l'organisation de la société civile, le développement de contre-pouvoirs, ce qui est nécessaire justement à la vie politique. Si on prend en compte ce cadre démocratique, quelle rupture introduit la loi ?
Alors, la rupture dans le cadre démocratique, en fait, elle tient, je dirais, à la philosophie générale du texte, qui repose sur une conception qu'on peut trouver peut-être dangereuse de ce qu'est l'ordre républicain. Parce que la République, elle trouve sa raison et sa légitimité, son essence, c'est dans la protection des libertés. C'est d'ailleurs le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits donc, sont la liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l'oppression, qui sont énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme. Et donc c'est une chose de vouloir empêcher les excès, le détournement de certaines libertés pour en protéger d'autres, c'en est une autre que de placer les libertés sous surveillance et sous contrôle permanent au nom de la sécurité. Et c'est en ça que ce texte constitue une rupture dans ce cadre démocratique.
La défenseure des droits, Claire Hédon, s'est aussi indignée de ce projet de loi et elle parle d'un renforcement global du contrôle de l'ordre social. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ?
Cette tendance générale au renforcement global du contrôle de l'ordre social, comment ça se passe concrètement dans ce projet de loi ? En fait, l'objectif qui est fixé par le texte, le renforcement des principes républicains, il repose pour l'essentiel en fait sur des dispositions répressives. Il faut savoir que plus d'un tiers des articles visent à renforcer les dispositifs de contrôle et près d'un quart de ces articles définissent des peines d'emprisonnement. Donc c'est donc cette prédominance des dispositions qui ajoutent des contraintes et des sanctions supplémentaires qui conduit à ce renforcement du contrôle de l'ordre social. Et donc on peut le voir dans le chapitre 2 qui est relatif aux associations, qui contient ces dispositions. Il impose ce chapitre dans son ensemble, une mise, je dirais, sous surveillance généralisée de la liberté associative. Le pouvoir veut imposer à toutes les associations de nouvelles contraintes, de nouveaux contrôles dans le cadre de leur vie associative, de leurs actions, de leurs finances, et il les soumet par les dispositions à des risques de sanctions, de dissolution, qui sont arbitraires, mais qui sont tout aussi permanents. En fait, cette philosophie de contrôle qui est présentée par le texte concernant les associations, moi, il m'inspire un passage d'un ouvrage qui s'appelle « De la démocratie en Amérique » qui a été écrit par Alexis de Tocqueville, qui disait, la citation, « Si une fois que le souverain avait le droit général d'autoriser à certaines conditions les associations de toutes espèces, il ne tarderait pas à réclamer celui de les surveiller et de les diriger afin qu'elles ne puissent pas s'écarter de la règle qui leur a été imposée. » Donc derrière cette citation, on voit en fait toute la, aussi la philosophie du texte qui tend vraiment à étendre les mesures de contrôle et de sanction de la vie associative.
L'une des dispositions de la loi qui pose problème est celle qui modifie le code de sécurité intérieure pour lutter contre les agissements violents et les violences contre les biens. On a du mal là à voir le lien avec les associations. Est-ce qu'il y en a un ?
L'article 8 hein, du projet de loi qui apporte en fait plusieurs modifications du coup au code de la sécurité intérieure qui prévoit en fait cet article, c'est l'article L212-1, qui prévoit les modalités et les motifs de dissolution administrative des associations et des groupements de faits qui troublent gravement l'ordre public, qui portent atteinte à des droits et libertés fondamentales. Il faut souligner déjà que des mesures de dissolution, ce sont des mesures extrêmes qui doivent rester rares, puisqu'elles ont pour conséquence de mettre fin immédiatement à l'existence d'une personne morale. Ce pouvoir, il trouve en fait son origine dans une loi de 1936 qui était relative aux groupements de combat et aux milices privées, qui elle-même a été votée après les événements du 6 février 1934. Il s'agit d'une mesure de police qui, par sa nature extrême, ne peut être prononcée que dans un nombre de cas limités qui sont listés à cet article du Code de la Sécurité Intérieure, qui relève 7 cas. Il faut savoir qu'il en a été fait usage environ de près de 130 fois depuis 1937, même si on note en fait une relative accélération depuis 10 ans, puisqu'il y a environ eu 30 dissolutions sur la période 2010-2020. Et là, on peut observer quelque chose, c'est que le contrôle du juge administratif sur ces mesures, c'est un contrôle dit normal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le juge se borne à vérifier simplement que les éléments de fait qui sont mis en avant par le pouvoir exécutif lorsqu'il procède à une dissolution d'association correspondent aux catégories législatives qui sont fixées. Et donc, de ce point de vue, on comprend tout de suite que la qualité même de ces catégories, la définition de ces catégories qui vont justifier une dissolution, importe grandement du point de vue de la préservation de la liberté d'association vis-à-vis de ce pouvoir de police. Or, le texte du projet de loi, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit une formulation particulièrement large, puisque le changement proposé donc au premier de cet article 8, il permet d'assimiler à la provocation à des manifestations armées dans la rue la provocation à tout agissement violent à l'encontre des personnes ou des biens. Dans la philosophie du texte, ce changement, on passe d'une mesure qui était à la base faite finalement pour protéger la démocratie contre des provocations, du coup, à des manifestations qui sont armées dans la rue, à une mesure finalement qui relève plutôt du maintien de l'ordre public. Quand on permet la dissolution d'une association pour des motifs de provocation à des agissements violents contre les personnes ou les biens, le texte y renvoie un très large spectre de violence qui relève de toute forme, si vous voulez, de protestation. Une violence contre une personne, ça peut être constitué en une atteinte physique, tout comme elle peut résulter d'un choc émotif. En visant les violences, le législateur, il a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement une personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion. Quant à violence contre les biens, le champ de la destruction, de la dégradation, de la détérioration d'un bien qui appartient à autrui, qui peut appartenir à une personne publique comme à une personne privée, c'est un champ très large. Donc, et on comprend en fait qu'une action, par exemple, de désobéissance civile qui donnerait lieu à un dommage à l'encontre d'un bien, aussi minime soit-il, pourrait potentiellement, avec cette nouvelle rédaction de l'article 8, donner lieu à une dissolution d'association. Pour exemple, hein, le fait, à l'occasion par exemple d'une grève, de répandre sur le sol du lait contenu dans des bidons ou encore des tags, sont parfois qualifiés non de dommages légers, mais de destruction, de détérioration, de dégradation de biens. Ça peut aller d'actes de casseurs au démantèlement d'un McDonald's, à l'occupation d'un appartement, d'une usine. Globalement, ce qui peut relever de ce champ, en fait, sont les formes de protestation ou de désobéissance civile. Et la sanction de dissolution en fait, d'une association en raison de dommages très légers ou en raison d'un choc émotif, moi, me semble assez disproportionnée par rapport à l'objectif qui est poursuivi par cette loi de lutte contre le séparatisme. Il y a un autre problème, désolé, ma réponse est un peu longue, mais il y a un autre problème aussi vis-à-vis de cet article 8, c'est qu'il permet la possibilité en fait, d'imputer à une association les agissements qui seront soit commis par des membres agissant en cette qualité soit directement liée aux activités de l'association. Et en imputant à l'association pour justifier sa dissolution les agissements commis par ses membres, ce nouveau motif de dissolution, il impose une charge de contrôle qui est énorme sur les dirigeants associatifs, qui devient même limite impossible à tenir. Parce que ces dirigeants associatifs, ils sont plus non seulement appelés à faire cesser les incitations, mais ils doivent aussi anticiper les agissements de leurs membres qui pourraient contribuer à des discriminations. Pour une association comme la mienne, France Nature Environnement, qui compte 3500 associations qui sont affiliées, qui sont membres de cette fédération, 880 000 militants en France, tout simplement la charge de contrôle pour la part du dirigeant associatif, elle semble impossible. Donc, en tout état de cause, en fait, cette disposition, elle pourra mettre en difficulté l'existence d'associations, et ce, pour des motifs, en fait, qui sont particulièrement larges.
L'autre article qui pose problème, l'un des autres articles qui pose problème, c'est celui qui a introduit le contrat d'engagement républicain. Tout simplement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique pour les associations qui vont être obligées, contraints de le signer, en fait?
Alors, le contrat d'engagement républicain, il y a deux dispositions qui le concernent. C'est l'article 6 et l'article 7 du projet de loi. L'article 6, en fait, il renforce l'encadrement des subventions qui sont attribuées aux associations par les collectivités publiques ou par toute autre personne qui est chargée de la gestion d'un service public, afin de s'assurer en fait que les moyens qui sont mis à leur disposition soient employés dans le respect des principes républicains que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public, qui sont déclinés dans ce contrat d'engagement républicain. Et par ailleurs, ce contrat d'engagement républicain, l'article 7, renforce les conditions d'agrément des associations. Les associations peuvent bénéficier d'agréments. Et donc, il y a un tronc commun d'agrément qui est donc commun à l'ensemble d'un large panel d'associations. Et aujourd'hui, ce tronc commun d'agrément, il comprend trois conditions: l'objet d'intérêt général, et le fonctionnement démocratique et la transparence financière. Et le projet de loi, il prévoit d'ajouter cette quatrième condition, qui est le respect du principe du contrat d'engagement républicain. Donc, en gros, le projet de loi prévoit que les associations doivent respecter les principes qui sont fixés dans ce contrat d'engagement républicain, et notamment les principes de dignité de la personne humaine, ou encore de s'abstenir de toute action qui porte atteinte à l'ordre public. On comprend, hein, le principe de dignité de la personne humaine, c'est un principe qui peut être interprété de manière très ambivalente et très large, de même que les actions de trouble à l'ordre public. Désormais, les associations doivent se conformer à cela, c'est-à-dire que les associations doivent s'abstenir de toute action qui porte atteinte à l'ordre public. On comprend que ça concerne un champ large de modalités d'action militante, que ce soit des occupations, des protestations, des manifestations, qui pourraient mener du coup à des situations de trouble à l'ordre public. En cas de non-respect justement de ce contrat d'engagement républicain, par exemple en cas de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative pourrait parfaitement refuser une subvention à une association. Et aujourd'hui, il convient de préciser en fait qu'il n'existe aucun droit pour les associations à bénéficier d'une subvention publique. L'octroi de ces subventions implique déjà une appréciation par les autorités publiques de l'opportunité de financer les associations. Il n'y a besoin aujourd'hui d'aucun texte pour permettre au pouvoir public de cesser de financer des associations s'ils estiment que les activités sont contraires, s'ils estiment, pardon, que les activités qu'elles ont sont contraires aux principes qui sont énumérés, pardon, dans le texte. Il existe déjà en pratique, en fait, un large pouvoir de contrôle.
Au-delà de l'introduction d'une sorte d'arbitraire, hein, dans ce qui permettrait de juger du bien fondé de certaines actions associatives, il y a aussi le problème du manque de transparence quant aux justifications qui pourraient être apportées, quant aux sanctions qui seraient faites à l'encontre des associations.
Il y a deux sanctions qui découlent de ces articles. Premièrement, c'est la sanction qui est prévue par l'article 6, c'est le retrait de la subvention allouée et la restitution éventuellement des sommes et des avantages aussi que l'adversaire en nature. Ce serait une décision motivée, mais qui pourrait être motivée sur des motifs qui sont particulièrement larges. Et le Conseil d'État, dans le cadre du coup de l'étude d'impact du projet de loi, a rendu un avis en fait, enfin, sur cette étude d'impact, et il a relevé que le gouvernement n'avait pas du tout justifié quelles associations nécessitaient en fait la mise en place de ce contrat d'engagement républicain. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que c'est 61% des associations qui perçoivent au moins un financement public. En 2019, hein, c'est plus de 60 400 subventions aux associations qui ont été constatées au titre des financements de l'État. Les subventions publiques, aujourd'hui, comme le souligne l'étude d'impact, elles représentent 20% du budget cumulé des associations. Donc, comprenez que retirer ou refuser 20% du budget d'une association, ça a des conséquences importantes qui pourraient aussi s'apparenter à une sanction et un caractère de punition. Pour moi, il ne fait aucun doute que pour certaines associations, notamment pour France Nature Environnement, dont je fais partie, pour laquelle les subventions représentent près de 48% de ses ressources, d'après son rapport d'activité de 2019, que le refus ou le retrait de subventions constitue une sanction qui a pour elle le caractère de punition particulièrement sévère, qui pourrait conduire en pratique à réduire son activité de moitié, a priori à procéder à des licenciements de plusieurs salariés. En gros, cette sanction par le retrait de financement, ça pourrait conduire en fait à la dissolution de fait des associations qui ne seraient plus en mesure de réaliser l'ensemble des actions pour lesquelles elles se sont engagées. Et alors, la deuxième sanction en fait, qui résulterait de ce non-respect du contrat d'engagement républicain, je le disais tout à l'heure, il a été intégré au socle commun des agréments. Et donc, dès qu'une association s'abstiendrait de respecter la dignité humaine ou donc de ne pas troubler l'ordre public, l'autorité administrative pourrait refuser ou abroger à tout moment l'agrément de toute association qui ne respecte pas ces principes du contrat d'engagement républicain. En France, il faut savoir qu'il y a plus de 300 000 associations qui sont concernées par le socle commun d'agrément. Donc un champ particulièrement large, on retrouve des associations sportives, des associations de jeunesse, d'éducation populaire, de chasse, mais aussi des associations agréées de protection de l'environnement. Et pour les associations agréées de protection de l'environnement, leur agrément, ils ont donc un agrément donc, commun, donc ce socle commun d'agrément, mais ils ont un agrément spécial, puisqu'elles sont agréées au titre de la protection de l'environnement par le Code de l'environnement, qui leur permet, par exemple, d'agir, de bénéficier d'une présomption d'intérêt à agir devant les juridictions administratives ou encore d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction. Mais aussi, il leur permet aussi de participer directement à des instances consultatives dans le cadre du droit de participation du public. Et donc, on comprend bien que le refus ou le retrait d'agrément pour une association comme FNE aurait des conséquences aussi sur l'exercice de ses droits au recours ou de son droit de participation à des instances consultatives relatives à l'environnement. Donc ce serait vraiment quand même lourd de conséquences pour une association par exemple comme la mienne.
L'un des objets de la coalition, c'est de se mobiliser contre ce projet de loi. Enfin, en tout cas, c'est l'un de ses objets actuels. Donc, quels sont les champs de mobilisation ?
Alors, les différents champs de mobilisation, aujourd'hui, sont, dans le cadre du débat parlementaire, déjà d'informer le public, comme là, à l'occasion justement de cette interview, c'est de sensibiliser déjà le mouvement associatif aux impacts de ce projet de loi, mais c'est aussi de sensibiliser les parlementaires. On a fait par exemple une conférence de presse devant l'Assemblée nationale avec plusieurs membres de tissus associatifs différents, d'associations pour interpeller les parlementaires sur le projet de loi. Sans doute des lettres d'interpellation à venir, mais il y a aussi encore des mobilisations possibles, éventuellement, comme on est encore en amont dans le processus législatif, s'il y a une saisine par exemple par des députés ou des sénateurs, a priori sur la constitutionnalité de la loi et que le Conseil constitutionnel est saisi, on pourra éventuellement déposer ce qu'on appelle une contribution extérieure au projet de loi afin de défendre justement l'inconstitutionnalité de ces décisions. Voilà.